Radio Okapi.
À suivre tout de suite en attente de ce journal, la situation dans la cité de Bunagana. Dans le Nord Kivu, l'armée régulière est toujours aux prises avec le M23 pour le contrôle de certaines zones. Bunagana est désertée par la population. L'on parle d'un retrait des FRDC. Des précisions autour de toutes ces informations qui nous parviennent, c'est dans cette édition. Et puis, cette sonnette d'alarme dans le Maniema. Il faut quitter la zone sous la ligne haute tension d'électricité. Ainsi déplore et regrette la direction générale de Sakima face aux constructions qui jonchent cette zone. Vous suivez tout de suite fidèle Bassemenane à ce propos. Nous bouclerons cette édition de la mi-journée avec Thomas Dermine, notre invité. Il est secrétaire d'État belge chargé de la politique scientifique. C'est ce l'on dit que le couple royal belge a bouclé sa visite officielle en RDC. Thomas Dermine parle de l'engagement de son pays au service des enjeux de la population congolaise. Restez avec nous et nous vous en parlons davantage. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Billy Van Lutumba devant ce micro pour la présentation de ce journal. Au Nord Kivu, la cité de Bunagana et ses environs se sont complètement vidés de leurs habitants ce lundi matin. C'est à la suite des affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23, qualifiés de mouvements terroristes par le gouvernement congolais et qui bénéficient du soutien du Rwanda. Pendant ce temps, la situation de Bunagana reste confuse. Plusieurs sources indiquent que la cité serait déjà passée entre les mains des rebelles à la suite du retrait sans combat des militaires FRDC. Pour en savoir davantage, Bernard Nyangi.
Après les récents affrontements d'hier de 19h à 22h locales autour de Bunagana, plusieurs sources locales évoquent un renfort de troupes des rebelles du M23 qui avancerait depuis ce lundi matin vers la cité. Cette situation, selon certaines sources, a accru la panique des populations qui ont fui la cité. Le même mouvement des populations a aussi été signalé vers Tchengerero et Kabindi, ouest de Bunagana, lesquels ont pris le chemin vers Jurusante. Le porte-parole du gouverneur et celui du secteur opérationnel Sokola 2 n'ont pas été disponibles pour nous fournir plus de détails sur cette situation ce lundi matin. D'autres sources militaires crédibles à Rutshuru indiquent que les FRDC aurait reçu l'ordre de se retirer de Bunagana. Les troupes qui y étaient déployées ont ainsi été vues traverser vers l'Ouganda. Pendant ces temps, d'autres combats ont été signalés autour de 8h locales vers Bikenge entre le groupement Jomba et Kisigari. Et dans le territoire de Nyiragongo, une concentration de militaires présumés du M23 est signalée vers la frontière avec le Rwanda. Cette situation contraint depuis ce matin plusieurs habitants des villages Gabagana et Gasizi, groupement de Bumba, à fuir leur milieu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Situation sécuritaire toujours dans la partie est de la RDC. En Ituri, les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise du PDF bombardent depuis dimanche des positions des ADF dans la forêt au croisement des rivières Loya et Luna dans le territoire d'Irumu. C'est dans le cadre de la troisième phase des opérations conjointes contre les groupes armés. Selon des sources militaires, l'objectif est de déloger ces rebelles de leur nouveau bastion dans la zone où ils tentent de se réorganiser. La société civile encourage les deux forces à traquer ces rebelles pour permettre le retour des nombreux déplacés dans leur village. Martial Kizabiamungu.
Ces opérations se déroulent principalement dans les groupements des bandits Vilemba. Des sources de sécurité de l'armée indiquent que ces rebelles ont érigé leur campement dans ces entités où ils se réorganisent pour planifier des attaques contre la population à l'ouest de la RN4 sur les tronçons Komandaluna. Cela après avoir été délogés par l'armée dans leur ancien bastion au site de Mont Oyo. Aucun bilan n'est disponible pour le moment, mais des détonations d'armes lourdes sont entendues jusqu'à ce lundi matin à l'est du village d'Ofaï. La société civile de Walese Vokutu espère que ces opérations vont permettre de démanteler ces groupes armés pour encourager les retours des milliers de déplacés. Dieudonné Malanga.
L'essentiel pour nous, il faut accélérer avec les bombardements. Cela va faciliter
le retour de la population dans leur milieu. Nous encourageons de prendre la décision d'attraper ce peuple.
Pour rappel, le 26 mai dernier, dans son rapport, la Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, avait alerté les autorités sur la présence de nombreux ZDF qui s'est regroupé dans les concessions des camps de Kaéro, Mboleda, vers Ndimo et Idou. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous parlons à présent du passage du couplet royal dans le sud Kivu. Le gouvernement, qui s'est dit encouragé par la visite du couple royal belge et toute sa délégation en RDC, et particulièrement à Bukavu. La visite de dimanche 12 juin à l'hôpital général de Panzi, où la délégation a palpé du doigt les conséquences des atrocités des multiples guerres. C'est notamment les femmes victimes des viols qui sont prises en charge par Denis Mukwege. Le premier ministre congolais estime que cette visite du roi est une occasion de mettre en place une coordination entre la RDC et la Belgique afin de mettre fin à ces violences. Les propos du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé sont recueillis par Emmanuel Elameji Ndoua Kabedi.
Il faut mentionner que cette visite s'est aussi effectuée à un moment particulier où nous connaissons une remontée des violences avec cette résurgence des M23 appuyée bien sûr par le Rwanda et ce besoin de qu'il y ait une coordination de sorte que puissions mettre fin à ce cycle de violence. C'est important de le mentionner alors que nous venons ici à Bukavu, le centre de Panzi, où nous voyons ces atrocités de la guerre, où nous avons des femmes violées, où nous avons des enfants sans père. Et c'était très émouvant ce travail qui est effectué par le docteur Mukwege. Et donc, lorsqu'on fait un parcours d'horizon, on peut voir que toutes ces visites se sont bien passées. Et donc, c'est toujours, bien sûr, cet élan de revenir vers la paix qui va nous animer. Non seulement en ce qui concerne le volet culturel avec cette remise symbolique de ce masque en guise de bonne foi par rapport au patrimoine de notre patrimoine culturel qui se trouve en Belgique, et puis par la suite pour marquer toute la coopération militaire que nous avons connue par le passé et s'inscrire dans l'avenir et revenir sur l'amitié bien sûr entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique.
Retardons-nous encore sur cet hôpital de Panzi, visité par le couple royal et où travaille le prix Nobel de la paix des docteurs Denis Mukwege. Outre ses missions de soins classiques, cette institution de santé est surtout réputée mondialement pour la chirurgie reconstructive pratiquée par Dr Denis Mukwege, mais aussi pour son modèle de guérison pour les survivantes des violences sexuelles. En quoi consiste ce modèle mondialement reconnu et dupliqué dans plusieurs pays? Cynthia Bachizina Bizana nous peint brièvement l'approche de cet hôpital.
One Stop Center, c'est le modèle de Panzi centré sur tous les besoins des victimes. Il repose sur quatre piliers. Dr Rukungu Nehema, chargé de la réplication de cette prise en charge holistique à l'hôpital de Panzi.
Au niveau médical, on estimait qu'on avait fait tout ce qu'on devait faire. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'était un problème psychologique avec toute la somatisation. La plupart des survivants qui arrivaient avaient des problèmes où on avait tout pillé chez eux. Même le problème psychologique, pour y répondre à 100%, on devait répondre à cette question socio-économique. Après la réinsertion des premières victimes, il y a eu les anciennes qui rentraient pour dire « je connais en fait la personne qui m'avait fait ça ». Et donc, le besoin de justice s'est fait ressentir.
Selon Dr Rukungu, depuis 1999, presque 68 000 survivantes des violences sexuelles ont été prises en charge sur le plan médical et psychosocial. Leur âge varie entre 6 mois et 80 ans. Quid de deux autres piliers?
Sur le plan socio-économique, actuellement, nous comptons 252 mutuelles de solidarité. Nous avons à peu près 811 associations villageoises d'épargne et de crédit. Sur le plan juridique, actuellement, nous avons 24 cliniques juridiques à travers le pays et la création même des groupes pour la masculinité positive.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
À Boutembo, 9 déplacés, dont 6 femmes, sont décédées en l'espace d'un mois à cause de mauvaises conditions de vie. Selon la présidente du comité des déplacés dans la ville, le dernier cas de décès a été enregistré il y a 4 jours. Parmi les causes, elle cite la malnutrition, la prise en charge médicale tardive. Madame Kavira Vaike-Vawera plaide ainsi pour une assistance holistique de près de 8000 déplacés internes éparpillés dans des familles d'accueil dans les 4 communes de Boutembo. On l'écoute au micro de Sadiq Aboubakar.
Au cours de 6 mois, nous venons de perdre 9 personnes et 7 parmi les victimes sont décédées dans une même semaine. Et le dernier cas est survenu jeudi 9 juin. Il y a ceux qui sont morts par malnutrition et d'autres par anémie. La mairie nous aide seulement par la prise en charge des vulnérables de certains cas. À propos de la prise en charge médicale, il n'y a que 2 communes de la ville où on trouve des hôpitaux qui soignent gratuitement les déplacés. Dans les 2 autres communes, soit Vulambaï-Kimimi, ces dispositifs n'existent pas. Donc tous les déplacés qui s'y trouvent ont du mal à se faire soigner. Par rapport à l'assistance, c'est au mois d'avril que l'ONG AVSI a aidé environ 200 déplacés avec un peu du cash et c'est tout. Nous sommes donc obligés de mendier dans les rues en vue de trouver quoi mettre sous la dent et survivre. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 7816 déplacés dans la ville de Boutembou.
816 déplacés.
Sachez que la plupart de ceux qui avaient pris des maisons de location ont été mis dehors par leur bailleur à cause de l'insolvabilité, ajoute la même source. Elle demande donc aux organisations humanitaires et au gouvernement de leur venir en aide. Province du Maniema présent, le directeur général de Sakima déplore la construction illégale des maisons, aussi le marché de Pounia sous la ligne de tension. Fidel Bassemenane a fait ce constat lors de sa mission d'inspection au Nord Maniema, précisément à Pounia et à Lubutu le week-end dernier. Ce dernier demande l'implication des autorités avant que les pires n'arrivent. Monsieur Fidel Bassemenane Kwakasongo est au micro de Florence Kizalunga.
Il y a des fuites d'eau importantes et qui demandent leur colmatage rapide parce que si ça s'aggrave, ça peut emporter certaines plaques de béton. Nous risquons de perdre cette centrale-là. Et au niveau des machines, il y a des pièces qui sont en panne qui fait qu'aujourd'hui, nous travaillons avec une turbine ou un alternateur sur 2. Nous avons seulement stigmatisé aussi avec les autorités locales. C'est que pour la ligne haute tension, il y a la construction illégale, non autorisée, des maisons et du plus grand marché de Pounia sous la ligne haute tension. Et que nous avons pensé appeler les autorités à réfléchir si des solutions à prendre sur cette situation-là. Parce que le pire peut arriver à tout moment. C'est déjà des lignes très, très vieilles. Et que nous ne voudrions pas qu'on dise que c'est Sakima qui est responsable, qui doit réparer, qui doit enterrer, ainsi de suite. Vraiment, le plus grand marché de Pounia est construit sous cette ligne haute tension et que cela demande qu'on puisse réfléchir pour sa délocalisation et des maisons construites, surtout des maisons aussi encore plus en étage avec les taux qui s'approche de moins de 5 mètres, parfois de 2 mètres, de la ligne haute tension.
Un mot de santé, résurgence de la rougeole dans la province du Kwilu. Le ministre provincial de la Santé indique que 2 hommes de santé sont fortement touchés, à savoir Bulungu et Vanga. Plus de 200 cas sont signalés dans l'ensemble de la province, dont 13 confirmés par l'INRB. Des mesures de riposte sont déjà prises pour protéger les enfants contre cette maladie. Docteur Benamoutou parle de la campagne de vaccination qui débute déjà ce lundi 13 juin dans les zones de santé touchées et celles environnantes. Irène Boma.
Cela fait déjà plus d'un mois depuis que la rougeole bat son plein dans la province du Kwilu, plus précisément dans la zone de santé de Bulungu, suivie de celle de Vanga, comme le rapporte le ministre provincial en charge de la santé, Dr Benamoutoui.
La province a enregistré au total plus de 200 cas de rougeole. Donc, 7 cas confirmés dans la zone de santé de Bulungu, 6 cas confirmés dans la zone de santé de Vanga. Donc, Bulungu a enregistré 152 cas suspects, tandis que la zone de santé de Vanga en a enregistré un total de 52. Il y a des cas dans les zones de santé aussi environnantes.
Pour riposter contre cette maladie, une campagne de vaccination en faveur des enfants de 6 à 59 mois débute déjà ce lundi avec l'appui de l'OMS et de l'UNICEF, a annoncé le ministre de la Santé du Kwilu.
Nous avons reçu les intrants, les vaccins, nous avons les fonds et les outils sont déjà disponibles. Donc, mais nous avons souhaité à ce que nous puissions étendre la riposte dans les zones de santé voisines.
Docteur Benamoutou y demande aux parents de profiter de cette occasion pour faire vacciner leurs enfants afin de les protéger contre la rougeole. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
À 2 jours de la clôture de la session ordinaire de mars, le Sénat intensifie les activités de production législative et de contrôle parlementaire. En plus de la loi électorale examinée, même le week-end, au sein de la commission PAJ et sous examen ce lundi, le vice-premier ministre de l'Intérieur sera face aux sénateurs ce mardi pour répondre aux questions orales avec débat lui adressé par 3 sénateurs. Lors du débat général de la dernière plénière, la sénatrice Isabelle Kabamba a félicité le président du Sénat pour avoir réussi à faire venir le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur devant les sénateurs afin qu'ils répondent aux préoccupations des élus après plusieurs reports. Isabelle Kabamba est au micro de Michel Kifindangoy.
Certains administrateurs des territoires travaillent dans des conditions difficiles, notamment au manque de moyens de mobilité pour les itinérances, alors qu'ils gèrent au quotidien des entités qui ont des superficies plus grandes que certains pays d'Afrique et d'Europe. Ma préoccupation est de savoir quel est l'état de lien de la gouvernance au niveau des territoires en rapport avec la situation salariale des administrateurs des territoires et administrateurs des territoires assistants, l'attribution des numéros matriqués, leur mécanisation, les infrastructures des bureaux et logements et le moyen logistique pour bien assurer leur mission. Combien les territoires reçoivent réellement comme dotation de fonctionnement et d'investissement? Et enfin, à quoi sert la rétrocession?
Toujours dans le cadre du contrôle parlementaire, sachez que le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements est aussi attendu ce même mardi au Sénat. Le ministre Chérubin Okende viendra répondre à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Victorine Lessé sur l'accord signé avec la République du Rwanda qui fait de Goma le principal hub de Rwandair. Le sénateur Denis Kambay attend aussi du ministre des Transports des explications convaincantes sur la problématique du transport aérien dans la province du Kasaï.
Actualité internationale.
À la veille des premiers départs prévus, la justice britannique examine ce lundi des recours de dernière minute contre le projet du gouvernement d'envoyer au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Un premier vol transportant une trentaine d'entre eux est prévu mardi, 4 jours après l'échec d'un recours d'association de défense des réfugiés. Les plaignants, dont les associations Care for Calais et Détention Action, ont cependant interjeté appel qui sera entendu ce lundi. Disant voulant s'en prendre aux passeurs, le premier ministre Boris Johnson affirma que cette stratégie contribuera à briser le modèle commercial de ces criminels impitoyables. L'ONU a vivement condamné cette stratégie lors d'une audience vendredi à la Haute Cour à Londres.
L'invité.
La Belgique est un allié très important pour le Congo qui s'engagera résolument au service des enjeux de la population congolaise. C'est Thomas Dermin, secrétaire d'État belge chargé de la politique scientifique, qui le dit dans un entretien accordé à Cynthia Bachizi. C'était en marge de la visite du couple royal belge dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu hier. Suivez.
Monsieur Dermin, bonjour.
Bonjour.
En parlant de la restitution, il y a un masque soukou qui a été remis symboliquement par le roi Philippe au président congolais. Quelle est la prochaine étape?
Oui, donc l'étape qu'on vient de vivre ici à Kinshasa, elle est hautement symbolique. C'est une œuvre rare, il n'en existe qu'une dizaine à travers le monde. Le musée de Tervuren à Bruxelles en conservait 18. Et donc effectivement, le roi Philippe a profité de sa visite royale en RDC pour en apporter un exemplaire au musée de Kinshasa. La prochaine étape, c'est en fait dans les prochaines semaines, où on va voter au Parlement belge un cadre juridique général qui permettra d'organiser, d'un point de vue juridique, ces échanges, le cas échéant.
Vous faites partie des jeunes ministres belges qui n'ont pas connu la colonisation, à part dans certains manuels d'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la jeunesse belge se sent quelque part redevable par rapport à ce qui s'est passé?
Aujourd'hui, il faut savoir que dans le gouvernement belge, il n'y a plus qu'un ministre qui était vivant du temps de la colonisation. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis parti d'une génération des années 80-90, où en fait, on parlait relativement peu de la colonisation, comme si c'était quelque chose qu'on voulait pas oublier, mais pas mettre en avant. Moi, je le vois comme, honnêtement, de façon très décomplexée, en me disant, effectivement, qu'on a un lien très particulier avec ce pays. On a des connexions parce qu'on parle la même langue, parce que certaines références sont partagées, et dans les deux sens. Moi, pourquoi je m'attache à cette question de la restitution? Aussi parce que c'est un des sujets clés sur lesquels Patrice Lumumba, au début de son mandat de Premier ministre, s'est exprimé. Et on est influencé par le leadership africain, par la culture africaine, de la même façon que c'est clair qu'on le voit à Lubumbashi, à Kinshasa et un peu partout au Congo, la Belgique a eu une influence sur ce pays à un moment de l'histoire. Et donc c'est, finalement, il n'y a pas de ce que n'est redevable ou pas, mais c'est de se dire en fait c'est une chance d'avoir un pays avec lequel on a partagé un moment d'histoire et sur lequel on peut essayer de reconstruire une relation, que ce soit en matière commerciale, en matière de coopération, en matière scientifique, en matière culturelle. Et moi, je le vois plutôt dans cette approche-là.
Vous savez que les relations belgo-congolaises ont eu, à un moment, des ratés. Hein. Il y a eu vraiment des faux pas. Que faire, justement, pour arriver vraiment à jeter les bases des relations qui soient, comme vous dites, décomplexées, symboliques d'un avenir commun entre les deux peuples?
Je pense que ce qu'on doit garder, c'est cette forme d'interaction directe, et spontané, se parler sans tabou, en assumant les zones d'ombre, en continuant à travailler ensemble sur les enjeux importants en matière de coopération, de sécurité, en matière culturelle, en matière de partenariat scientifique. Je pense quand même que ce qui est important, et ce qui sera toujours important pour la Belgique, c'est que le cadre soit garanti dans lequel s'inscrit ces relations. Et donc toutes les questions, je dirais, en termes politiques, de gouvernance, respect des processus démocratiques, seraient évidemment toujours très importants pour quelque part créer le cadre dans lequel ces relations peuvent s'entretenir et continuer à grandir avec le temps. De la même manière, en matière commerciale, il y a aussi toute une série de prérequis nécessaires en matière de gouvernance, de climat des affaires, etc., sur lesquels le gouvernement travaille activement via différentes réformes, mais qui sont importantes pour garantir un cadre dans lesquels les relations, les échanges humains, les échanges commerciaux peuvent se construire.
Aujourd'hui, on peut dire que la Belgique est un allié sans faille du Congo?
Je dirais que la Belgique est un allié très très important du Congo, qui a un lien particulier à travers l'histoire avec le Congo, et qui s'engagera résolument au service des enjeux de la population congolaise en matière de transition, en matière économique, en matière de lutte contre la pauvreté.
En matière de sécurité aussi?
La sécurité, je pense que le Premier ministre a eu des mots assez forts en comparant finalement l'agression russe sur le territoire ukrainien à la situation et quelque part au droit à l'intégrité territoriale que la République démocratique du Congo avait aussi. Mais je pense qu'il faut toujours... La Belgique restera vraiment un partenaire privilégié du Congo avec pour autant effectivement un travail conjoint qui doit être mené en matière du cadre, que ce soit en matière de gouvernance, de climat des affaires, de transition démocratique.
Je vous remercie.
À vous, fidèles auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par Élisée Tikotap et l'équipe Elamondo et l'ensemble de toute la rédaction. Alain Goy assuré la prise des soins et la mise en onde. Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Continuez à vous informer sur www.radiookapi.net.